Europe Midi Weekend.
Bonjour à tous et bienvenue. Il est midi et demi.
Europe Midi Weekend.
Sophie Tussaud.
À la une de ce journal, la canicule, une quatrième vague de chaleur est attendue sur la France dès la semaine prochaine. Les fortes températures clouent les vacanciers à l'ombre et limitent leur activité. Ça se ressent sur l'économie dans le sud du pays où les estivaliers ne commencent réellement à travailler qu'en fin de journée. Avec la chaleur, la sécheresse, situation exceptionnelle en ce moment en France. Le risque d'incendie est maximal et les pompiers sont sur le qui-vive. Les services d'urgence et de réanimation connaissent de grandes difficultés de fonctionnement, manque de lits, manque d'effectifs. Comment, dans ces circonstances, peuvent-ils continuer à exercer correctement leur métier? Nous en parlerons avec Marc Noiset, président de SAMU Urgence de France. Les tensions entre la Chine et Taïwan franchissent un nouveau palier aujourd'hui. Taipei accuse Pékin de simuler une attaque de l'île. Y a-t-il un risque réel de guerre? Nous poserons la question au directeur de recherche à l'IRIS. L'actualité de ce samedi, marquée également par un nouveau chassé-croisé sur les routes de France. Beaucoup de monde, des bouchons aujourd'hui et rouges au niveau national dans le sens des départs noirs sur un quart sud-est. Vos conditions de circulation dans ce journal. Le football avec la reprise ce week-end du championnat de France de Ligue 1. Quels sont les favoris, les enjeux? Une saison un peu particulière qui sera coupée en deux par la Coupe du Monde au Qatar. Nous en parlerons avec Guy Roux, le consultant football d'Europe 1. Et avant de développer tous ces titres, la tendance météo, Anthony Kazmarek.
L'après-midi sera ensoleillé et sèche sur quasiment tout le pays, sauf sur les reliefs du sud où quelques orages se déclencheront. Du vent dans la vallée du Rhône, Mistral et la Tramontane vers le Roussillon. Les températures de saison au nord, profitons-en, 20 à 28 degrés, mais encore 30 à 37 degrés dans le sud où deux départements restent en vigilance orange canicule, le Gard et le Vaucluse.
Merci Anthony, météo complète à la fin de ce journal.
Europe 1.
Le mercure qui grimpe encore en France. Quatrième vague de chaleur attendue cette semaine. Il fait chaud et les corps fatiguent. Thibaut Huy, vous êtes à Toulon dans le Var pour Europe 1. 34 degrés sont attendus dans la ville aujourd'hui. Comment les habitants et les touristes supportent la chaleur ?
Eh bien, c'est compliqué ici, hein. Il y a très peu de vent, l'air est étouffant et ceux qui souffrent, ce sont surtout les travailleurs. J'ai croisé Dylan qui comptait des caisses de verre vides sur un coin de trottoir brûlant, des gouttes de sueur partout sur le front.
C'est compliqué à travailler, porter, puis on transpire et faut boire, c'est dur. J'ai hâte que ça se finisse, cette chaleur.
Et les touristes très nombreux au mois d'août à Toulon subissent eux aussi, assis sur une terrasse sur le port. Morgane pense à son programme du jour qui risque de s'adapter.
C'est presque pas supportable quoi. C'est plus lent, on fait moins de choses, ça repousse. Là on veut aller à la plage cet après-midi, on se dit mais on va mourir quoi. Enfin, il faut prendre les parasols et tout. Et ça fait peur pour l'avenir. Je pense que c'est l'été le plus froid du reste de notre vie.
De l'inquiétude aussi du côté des commerçants. Richard tient la grande roue de Toulon installée sous le cagnard. Il perd de nombreux clients.
Ah ben les après-midi sont un peu compliqués. Les gens, ils passent et puis ils traversent vite pour aller se mettre à l'abri. Quoi, hein. Sur la place, l'après-midi, il fait très chaud. Hein. On fait pratiquement 75% du chiffre d'affaires entre 20h et minuit. Quoi.
Voilà, le ras-le-bol, vous l'entendez. Malheureusement, la chaleur va encore grimper aujourd'hui jusqu'à 34 degrés prévus en milieu d'après-midi.
Thibaut Huy à Toulon pour Europe 1. Dans le Var, où le risque d'incendie est maximal, 4 massifs forestiers sont fermés. La préfecture met en garde. Les pompiers du département sont sur le qui-vive en cas d'alerte. C'est ce qu'explique le lieutenant Oscar en attente dans la brigade de Sainte-Maxime, près de Saint-Tropez.
Alors en fonction des zones, les différents massifs sont fermés en fonction des zones de danger sur l'échelle de danger que nous avons. On veut éviter d'avoir des civils qui se promènent dans la nature et qui risqueraient de se faire coincer, de ne pas pouvoir se retirer des massifs forestiers. Donc avec des températures extrêmes comme ça, des risques feux de forêt élevés, les dispositifs sont renforcés sur le terrain avec des unités qui sont prêtes à partir très rapidement, comme donc des groupes d'intervention feux de forêt ou des modules d'intervention rapide, de façon à ce qu'on puisse vraiment frapper vite et fort, de façon à essayer de limiter les incendies très rapidement. Et vous avez également environ 150 personnes qui sont réparties sur les dispositifs préventifs qui sont placés vraiment dédiés au risque feux de forêt.
Le lieutenant Oscar dans la brigade de Sainte-Maxime, près de Saint-Tropez. Les incendies favorisés par la sécheresse, 93 départements sont concernés. Cela fait des semaines que la pluviométrie affiche presque zéro, pointé un peu partout en France. À ce titre, on peut s'inquiéter légitimement pour les végétaux et pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas un tel besoin d'eau. Tout est question de plantation. Exemple, la Terra Botanica à Angers, où un jardin n'a plus été arrosé depuis sa création.
Il y a un jour, peut-être, il n'y aura plus d'eau. Donc, anticipons.
À Terra Botanica, cela fait maintenant 3 ans que cette question du manque d'eau est prise en compte. Boris Barret est paysagiste. Il nous emmène dans un secteur du parc un peu spécial.
Là, on voit jardin sans eau. Ça fait déjà 3 ans, là, peu importe les canicules qu'on a. Il y a zéro arrosage.
Sous un soleil de plomb, les 700 mètres carrés de cet espace n'ont reçu aucune goutte d'eau depuis les dernières pluies. Autant dire rien depuis plusieurs semaines. Et malgré cela, l'ensemble est verdoyant. Pourtant, pas besoin d'être un as du jardinage pour y parvenir.
Il suffit d'imiter ce qui se fait dans la nature. Il y a des endroits sur la planète où il y a de la sécheresse et il y a des plantes qui poussent. Bah pourquoi pas les mettre dans un jardin ? On peut acheter des plantes avec des enracinements beaucoup plus importants que ce qu'on va trouver dans des godets classiques. Ici, les plantes sont arrivées toutes menues, mais alors avec un système racinaire qui faisait déjà 20 cm de profondeur.
Cette faculté d'aller se nourrir le plus loin possible en sous-sol, les végétaux n'ont pas attendu que l'homme s'en charge pour eux. En somme, laissons la nature faire son œuvre, y compris maintenant en milieu urbain.
Dans nos villes, il y a besoin d'espace vert. Autant ne pas s'installer une épine dans le pied en se disant j'installe un jardin certes, mais oh là là, qu'est-ce que ça demande de l'eau ? On sait que ça marche.
Des jardins sans eau au cœur de nos agglomérations, voilà de quoi nourrir la réflexion du nouveau ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, ancien maire d'Angers, à l'origine de Terra Botanica.
Bienvenue à Terra Botanica.
Angers, Charles Guyard, Europe 1.
Europe Midi Weekend.
Sophie Tussaud.
12h36 sur Europe 1, la suite du journal. Les services d'urgence et de réanimation vont mal en France, très mal même. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée en juillet, publiée cette semaine par SAMU Urgence France. Pour en parler, nous sommes avec le président de l'association, Marc Noisier. Bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les difficultés de fonctionnement actuellement pour les services d'urgence et le 15 ?
Écoutez, on constate en grosso modo deux principales difficultés. La première, elle s'exerce sur les services d'urgence qui sont confrontés à deux forces contradictoires. La première, c'est une recrudescence d'activité liée à la diminution de l'offre de soins en médecine libérale du fait des congés et à l'augmentation de l'activité que l'on peut connaître en période estivale, notamment sur certains territoires de la France. Et par ailleurs, on a une diminution de la disponibilité des lits d'hospitalisation dans nos hôpitaux, liée aux différentes conséquences du manque de personnel dans les hôpitaux et à la fermeture estivale qu'on connaît tous les ans dans nos hôpitaux, où on ferme des lits pour pouvoir donner des congés au personnel. Donc on a d'une part une augmentation d'activité qui, sur la France entière, on l'a recensée aux alentours de 12%, et d'autre part, moins de lits d'hospitalisation, ce qui rend impossible l'équation de prise en charge dans de bonnes conditions des patients qui se présentent aux urgences. Et la deuxième problématique, c'est dans les centres 15, où on a également une augmentation d'activité qui est nettement plus importante, de l'ordre de 20%, liée aux difficultés pour les patients de trouver une offre de soins disponible pour leurs problématiques aiguës notamment, et d'autre part aux différents messages qui circulent depuis le début de l'été qui évidemment ont un impact sur notre activité.
Comment remédier aux défaillances que vous pointez ?
Écoutez, on essaye d'y remédier avec toutes les mesures qui sont à notre disposition, et notamment les mesures qui ont été mises en place par la mission Flash de François Braun. Toutes ces petites mesures permettent de diminuer un petit peu le recours, permettent d'ouvrir de nouvelles offres de soins en libéral et permettent également de mieux réguler, de mieux filiariser les patients dans le parcours de soins, dont la première idée, c'est d'essayer d'éviter de sursaturer les services des urgences pour des patients qui n'ont pas besoin d'y être. Donc le message principal, c'est si vous avez un problème de santé, adressez-vous en premier lieu à votre médecin traitant. Et si votre médecin traitant n'est pas disponible ou si ça relève véritablement de l'urgence, là on appelle au centre 15 et le centre 15 vous enverra au bon endroit pour avoir un juste soin.
Merci Marc Noisier, président de l'association SAMU Urgence France. Dans l'actualité internationale, le pire accès de violence au Proche-Orient depuis la guerre éclair de l'année dernière. Les forces israéliennes ont continué ce matin de bombarder Gaza. Dans le même temps, le groupe armé djihad islamique a envoyé des roquettes vers l'État hébreu. 15 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées. L'État hébreu qui annonce avoir interpellé 19 membres membre du djihad islamique. C'est l'arrestation d'un chef du groupe en Cisjordanie occupé en début de semaine qui a mis le feu aux poudres. Détention également en Asie du Sud-Est. Un nouveau cran a été franchi dans les tensions entre Taïwan et la Chine. Des avions et navires de guerre chinois ont mené ce matin une simulation d'attaque contre l'île principale de Taïwan. La Chine intensifie ses représailles après la visite à Taipei de la numéro 3 américaine, Nancy Pelosi, en suspendant le dialogue Pékin-Washington sur le climat, des décisions jugées irresponsables par Washington. Alexis Guilleux.
Oui, les actions de la Chine punissent le monde entier, estime la Maison-Blanche, car le changement climatique ne connaît pas les frontières. Nouvelle dégradation des relations déjà très froides entre les deux premières puissances mondiales, car au-delà des discussions sur le climat, Pékin a également annulé un entretien avec les responsables militaires américains. Une réaction infondée, selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.
Les actions de la Chine en ce moment sont fondamentalement irresponsables. Il n'y a pas besoin et aucune raison à cette escalade. Rien n'a changé dans notre politique d'une seule Chine. Rien n'a changé.
Washington a également convoqué l'ambassadeur chinois aux États-Unis pour dénoncer les exercices militaires en cours autour de Taïwan. En revanche, pas question de couper le dialogue côté américain. Nous gardons ouvertes nos lignes de communication avec Pékin, assure la Maison-Blanche. La semaine dernière, Joe Biden et Xi Jinping s'étaient accordés sur le principe d'une rencontre en personne, la première entre les deux chefs d'État. Des discussions plus que nécessaires selon l'ONU qui juge impossible de résoudre les problèmes les plus pressants du monde sans un dialogue et une coopération efficace entre la Chine et les États-Unis.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 à Washington, pour décrypter ce qui s'est joué cette semaine, nous sommes avec Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que le déplacement à Taïwan, qui souhaite avancer vers son indépendance cette semaine, de Nancy Pelosi était utile en ces temps de tension mondiale ?
Alors tout d'abord, Taïwan ne souhaite pas avancer vers son indépendance. Je crois que la majorité de la population taïwanaise souhaite le maintien du statu quo. Les indépendantistes sont plutôt minoritaires, même si la présidente Tsai est issue d'un parti indépendantiste, mais elle est beaucoup plus modérée que la ligne globale de son parti.
Et donc alors, est-ce que ce déplacement était utile, ce déplacement de Nancy Pelosi sur le territoire taïwanais, avec toutes les tensions qu'il y a actuelles ?
Voilà. Alors ce déplacement est quelque chose à double facette. Nancy Pelosi est considérée dans beaucoup de pays comme une va-t-en-guerre et le fait qu'elle se rende à Taïwan avec la position qu'elle occupe dans la hiérarchie américaine, où elle est, comme on dit, elle est le seul homme à la tête de la hiérarchie américaine, ça peut effectivement être troublant. Ça oblige, ça force un petit peu la main du pouvoir exécutif américain qui est pour le moment encore, il maintient l'ambiguïté stratégique sur son soutien éventuel à Taïwan en cas de conflit et qui se retrouve obligé, à cause de la visite de Nancy Pelosi, d'intervenir s'il se passe quelque chose. D'un autre côté, les Taïwanais ont été obligés d'accueillir Nancy Pelosi qui d'un côté leur apporte des garanties et d'un autre côté a provoqué la colère de Pékin qui a donc lancé toute cette série d'exercices qui simule un blocus de l'île, pas l'invasion mais un blocus de l'île, ce qui est déjà extrêmement important.
Jean-Vincent Brisset, est-ce qu'il y a un risque réel de guerre ou bien est-ce que les manœuvres militaires qui sont actuellement faites par la Chine servent juste à montrer les muscles ?
Alors, ils servent à montrer les muscles. La dernière fois qu'il y a eu une grosse crise, c'était il y a plus de 20 ans. À l'époque, les armées chinoises n'avaient pas les moyens de résister à une contre-attaque américaine et à envahir l'île. Les choses ont bien changé. La montée en puissance des armées chinoises est extrêmement importante. La montée professionnelle des armées chinoises n'a pas suivi celle du matériel. Et ce que je crains personnellement, pour connaître un petit peu les deux côtés, c'est un dérapage. Il y a déjà eu des accidents parce que la compétence technique des personnels militaires chinois a provoqué des accidents. Le dernier accident grave, c'était en 2001, deux avions qui se sont rentrés dedans. S'il y a quelque chose qui se passe et s'il y a des militaires américains ou taïwanais, mais surtout des militaires américains qui sont tués dans ce genre d'affrontement, il y a un risque de monter en puissance de perte de contrôle de quelque chose, alors que personne ne veut la guerre pour le moment.
Merci Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l'IRIS, pour cet éclairage de la situation. Autre conflit, là, armé, la guerre en Ukraine. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de frappes sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, la plus grande d'Europe. Des bombardements en parallèle du départ de 3 nouveaux chargements de céréales des ports ukrainiens, des chargements cruciaux pour la sécurité alimentaire mondiale.
Europe Midi Weekend.
Sophie Tussaud.
Restez avec nous, vous êtes de plus en plus nombreux sur les routes aujourd'hui. Dans un instant, on voit vos conditions de circulation. On parlera football également, puisque ce week-end marque la reprise du championnat de France de Ligue 1 tout de suite.
Europe Midi Weekend.
Sophie Tussaud.
12h46, c'est la suite d'Europe Midi Week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez. Encore un gros week-end de circulation sur les routes de France. Vous êtes nombreux à partir en vacances, nombreux également à rentrer. Et forcément, ça crée des bouchons avec un pic à plus de 1000 km à la mi-journée, Alexandra Gégy.
Et oui, il fallait partir tôt ce matin ou alors il va falloir s'armer de patience. C'est la journée la plus chargée du week-end. Voilà pourquoi bison futé voire rouge dans les deux sens de circulation et même noir sur le quart sud-est du pays. Ça coince en particulier dans la vallée du Rhône sur l'autoroute A7, secteur à éviter jusqu'à 16h. Vous êtes également de plus en plus nombreux au niveau de l'arc méditerranéen sur l'autoroute A8 et sur l'autoroute A9. Pour le sud-ouest du pays, vous roulez aussi en accordéon. On compte plus de 130 km de bouchons cumulés dans le secteur. C'est compliqué au nord et au sud de Bordeaux pour rejoindre l'Espagne en passant par l'A63. Pas mal de monde aussi sur l'A61 entre Toulouse et Narbonne. Côté nord-ouest, en raison de plusieurs accidents, le trafic est bien chargé. C'est le cas entre Paris et Bordeaux en empruntant l'autoroute A10, mais aussi entre Paris et Clermont-Ferrand sur l'A71. Et si vous êtes sur le point de partir en vacances depuis l'Île-de-France, attendez 14h car ça coince sur la 11 en direction des côtes vendéennes et bretonnes. Évitez également l'autoroute A8 entre Aix-en-Provence et Nice de 15h à 20h. Ça roulera beaucoup mieux demain avec un drapeau vert quasiment partout, sauf dans le sud-est du pays où le trafic devrait toujours être compliqué.
Merci Alexandra Gégy. Une route des vacances qui ressemble trop souvent à une poubelle, c'est ce que nous révèle la 8e édition d'une enquête de la Fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable. Un conducteur sur 4 reconnaît jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture sur l'autoroute, un véritable fléau. Des sociétés d'autoroute ont décidé de sensibiliser les usagers. Certaines souhaitent même aller plus loin et envisagent des aires zéro déchet. Reportage sur la Côte d'Azur de Frédéric Michel.
Sur la route, il y a assez plein de déchets. J'ai freiné sur une plaque en plastique et la moto s'est couchée sur mon pied.
Papier, gobelets, nourriture, nos routes sont jonchées de déchets dangereux et polluants. Sur la 8, dans le Var, l'aire de l'Estérel s'est mise au vert. Des poubelles colorées, des parcours de jeux ont été installés. Solange Roldan, responsable du système management environnemental chez Vinci Autoroute.
On a des pictos qui représentent les déchets à trier, des pictos très simplifiés. Et on a revu aussi les capots extérieurs pour qu'ils soient visibles de loin, sans contact, parce que c'est aussi un gage d'hygiène et ça permet aussi de glisser les déchets à l'intérieur facilement.
Sur la route des vacances avec sa fille, cette maman est séduite.
Ça éduque les enfants à trier, à avoir les bons gestes. C'est ludique et forcément, c'est plus efficace.
L'ambition pour 2024 est d'aller encore plus loin en proposant sur les 187 aires du réseau un engagement zéro déchet. Pierre Copé, le président de Vinci Autoroute.
Le zéro déchet, c'est une politique qui passe par une quinzaine de leviers. Et les plus visibles sont les systèmes de tri sélectif et de collecte sélective, tout ce qui concerne l'économie de production de déchets. Avec le vrac, nous encourageons ici les clients à utiliser leur propre mug de façon à éviter la prolifération des gobelets.
Le zéro déchet, c'est aussi réduire la consommation énergétique de chaque aire d'autoroute, un défi pour l'avenir.
Le reportage de Frédéric Michel. Les vacances pour le moment, avec tout de même, ne l'oublions pas, en ligne de mire, la rentrée dans un mois, à partir du 1er septembre. Parmi l'une des mesures votées cette semaine au Parlement, la revalorisation des bourses étudiantes. Elles vont augmenter de 4%. Un coup de pouce pour les 750 000 étudiants boursiers, souvent précaires. Malgré tout, pour beaucoup d'entre eux, pas sûr que cela soit suffisant dans une période où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Margot Fodéré.
Sauter des repas pour s'en sortir, c'est le quotidien de Chloé, une jeune boursière parisienne. Avec 405 euros par mois, ce ne sont pas quelques euros supplémentaires qui la sortiront de la galère.
4% pour ma part, ça va faire environ 16 euros
par mois, 16 euros par mois à Paris. De plus, qu'est-ce que je peux faire ?
Dans les supermarchés, il lui arrive d'arpenter les rayons à la recherche du paquet de pâtes le plus abordable. Alors face à la hausse des prix, difficile de se contenter de cette revalorisation des bourses.
En juillet, on arrivait à 6% d'inflation. Et 4, c'est moins que 6. Au final, on perd toujours autant d'argent.
Une angoisse pour beaucoup d'étudiants, d'autant plus qu'à côté des dépenses essentielles, il y a parfois d'autres frais, comme le matériel de dessin pour Lisa Marie, étudiante en école d'architecture, elle aussi boursière.
Ça ne pourra pas remplir totalement les achats du mois. Des feutres de dessin, des produits aussi pour la peinture, c'est quand même un gros budget.
Mais malgré la frustration, Chloé et Lisa Marie le reconnaissent, 4% c'est toujours mieux que rien.
Margot Faudéry. Et on passe au sport. Ce week-end marque la reprise de la Ligue 1. Hier soir en match d'ouverture, Lyon a battu Ajaccio 2-1. À suivre aujourd'hui deux matchs, Strasbourg-Monaco à 17h, Clermont-Paris à 21h. À suivre en intégralité dans Europe 1 Sport. Et pour parler du championnat de France de Ligue 1, nous sommes avec Guy Roux, consultant en football Europe 1. Bonjour Guy.
Bonjour.
Quels sont les enjeux de cette nouvelle saison, Guy ?
Les enjeux sont d'abord de la supporter, de bien la vivre, parce qu'elle est complètement inédite. Il va y avoir un arrêt d'un mois en hiver pour pouvoir jouer la Coupe du Monde. Il faudra que les clubs ne se dispersent pas, que les joueurs gardent leur forme. Et sans doute, il y aura des matchs amicaux pour ceux qui ne sont pas sélectionnés. Enfin, c'est une saison très difficile. Le deuxième enjeu, c'est qu'il va y avoir 4 descentes. Il n'y a plus de barrage, mais les 4 derniers vont descendre. Et ça, c'est un immense problème, une grande inquiétude pour beaucoup.
Et qui pourrait nous surprendre ? Du côté des clubs, on peut s'attendre à quoi ?
Mais je pense qu'on va continuer comme sur la saison dernière. La saison dernière, il y a eu un record de buts marqués. Et je pense que là, on va de nouveau avoir un jeu qui va s'ouvrir la plupart du temps et des matchs avec des buts, ce qui va faire plaisir à tout le monde, évidemment. Et à toutes les chaînes de télé qui ont accès à ce championnat.
Guy, ce soir, le PSG se déplace à 21h sur le terrain de Clermont. Paris, vainqueur du Trophée des Champions la semaine dernière. Est-ce qu'on peut s'attendre à un effet Galtier, le nouvel entraîneur ?
Oh, je pense que l'effet Galtier est arrivé depuis plusieurs semaines. Je pense qu'il a bien pris auprès des joueurs. Il a été beaucoup appuyé par le président, puisqu'il y a eu une conférence exprès. Il est en plus protégé par le monsieur Campos, qui est le directeur sportif, et avec lequel il a fonctionné à Lille il y a quelques années. Ils ont été champions de France. Donc je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de souci.
Merci Guy Roux, consultant football d'Europe 1. Si vous êtes rêveur ou si vous avez juste envie d'un beau spectacle, levez les yeux au ciel ce soir. Déjà quelques jours qu'elle file dans le ciel, c'est la Nuit des Étoiles, 32e édition. Plus de 200 manifestations sont organisées à travers la France par les différentes associations d'astronomie. Alors pour apprendre à reconnaître d'autres constellations que simplement la Grande Ourse, Tatiana Gezelman a pris hier soir un petit cours d'astronomie en compagnie de Mylène Wendling du Planétarium de Strasbourg.
La Grande Ourse, on la connaît tous, cette étoile qui forme une casserole aux manches un peu tordues.
Il suffit de regarder vers l'horizon nord à n'importe quelle heure de la nuit, à n'importe quelle saison, et a priori, on la repère à chaque fois.
Et puis il y a sa cousine, la Petite Ourse.
On la repère assez facilement, cette Petite Ourse, c'est surtout son étoile au bout, qui s'appelle l'étoile polaire. Et c'est en prolongeant une partie de la constellation de la Grande Ourse qu'on arrive à retrouver cette étoile polaire qui fait partie de la Petite Ourse.
Mais pour briller en société, on élargit notre bestiaire avec deux autres constellations visibles à l'œil nu.
À la tombée de la nuit, on peut voir le Cygne qui a une forme de grande croix. Si vous êtes plus au sud de la France, il y a une belle constellation qui s'appelle le Scorpion, un grand hameçon avec une étoile très rouge au milieu.
En parlant de points rouges, on pense bien sûr à la planète Mars, que l'on peut voir au travers d'un télescope, de même que Saturne et Jupiter.
Jupiter, c'est la plus grosse. Elle a 4 satellites naturels qu'on peut voir dans un télescope. Saturne, elle est magnifique, elle a de très beaux anneaux. Et Mars, on la reconnaît parce qu'elle a une couleur un petit peu rouge.
Et si vous n'avez pas tout retenu de cette leçon d'astronomie, sachez que des applications existent pour scanner le ciel via votre téléphone, comme Stellarium par exemple. Strasbourg, Tatiana Gezelman, Europe 1.
Et il nous reste à voir le temps.
À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com.
Et le temps, c'est avec vous, Anthony Cazemaret, qu'il fait toujours chaud dans le sud.
Oui, c'est pour ça que deux départements restent en vigilance orange canicule, le Gard et le Vaucluse. Il fera encore 37 degrés à Marseille, à Nîmes et à Perpignan cet après-midi. 36 à Montpellier, il fera chaud aussi dans le sud-ouest. 33 à Bordeaux, 34 à Toulouse. Et puis sur la moitié nord, grâce à ce petit vent de nord-est bien frais, bien agréable, on sera plutôt dans les normales de saison. Avec 23 degrés à Brest, 24 à Lille, 25 à Paris et Reims, 27 degrés à Strasbourg et Rennes, 28 à Nantes, 29 à La Rochelle. Côté ciel, du soleil pour tout le monde, sauf sur les Alpes, sur les Pyrénées, sur la montagne Corse où quelques orages se déclencheront en fin de journée. Et puis, le vent va souffler aussi dans la vallée du Rhône et vers le Roussillon, du Mistral, de la Tramontane, entre 40 et 60 km/h en rafale. Ce sera le même type de temps d'ailleurs pour demain, avec les mêmes températures, et la matinée sera fraîche encore demain matin, comme ce matin. Sur la moitié nord, on sera souvent entre 10 et 15 degrés, et ça fera du bien avant ce qui arrive à partir de lundi,
bah,
Sophie.
Oui, justement, Anthony, qu'est-ce qui nous attend à partir de lundi?
Eh bien, c'est parti pour la quatrième vague de chaleur. Alors, une vague de chaleur qui n'aura pas forcément cessé dans le sud, on l'a vu avec les températures prévues pour ce week-end, mais dès lundi, ça va à nouveau grimper avec les 30 degrés qui remonteront jusqu'à la Loire, ainsi que dans le nord-est et déjà des pointes à 37 degrés dans le sud-ouest. Mardi, seule la Bretagne, le Cotentin et le Nord-Pas-de-Calais seront en dessous de 30 degrés. On sera au-dessus partout ailleurs et 37 à 39 degrés dans le sud-ouest. Et puis à partir de mercredi, les seuils de canicule risquent à nouveau d'être dépassés sur de nombreuses régions avec des pointes déjà mercredi à 35, 36 degrés jusqu'à la Loire, jusqu'à la région parisienne jeudi. Et puis pour l'instant, le pic est prévu pour vendredi et samedi prochain, mais on le sait, ça peut encore bouger. Mais on s'attend à plus de 35 degrés sur les trois quarts du pays dès jeudi et ça pourrait durer.
Merci Anthony Cazemaret. Avant de refermer ce jour, journal, la rédaction d'Europe 1 voulait vous dire que dans le ciel, il y avait une étoile de plus depuis cette nuit, celle d'Emmanuel Faux, l'un des nôtres à Europe 1. Il avait rejoint la station en 1987, correspondant à Moscou, puis à Jérusalem, passionné d'actualité. Il vous a informé durant 30 ans depuis les locaux de la rue François 1er.
Force de l'événement, magie du direct, force du récit, magie de la découverte. J'ai vécu tous ces bonheurs ici en toute liberté pendant 30 ans. Et cette liberté-là, c'est aussi la magie d'Europe 1, dont vous êtes, vous, auditeurs, les témoins exigeants. Merci et surtout continuez à être au rendez-vous de cette magie.
Emmanuel Faux, lors de ses adieux à Europe 1 en 2017, aujourd'hui toute la rédaction a les yeux rivés vers cette nouvelle étoile et pense bien évidemment à sa famille. Dans un instant, votre rendez-vous avec Isabelle Morizet. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, mais avant cela, un dernier rappel des grands titres de l'actualité de ce samedi.